Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. En ce beau samedi précurseur du jour du Seigneur, c'est l'émission Paroles en musique qui déploie ses ailes. Ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous souhaite une bienvenue cordiale, chaleureuse, et je le fais de concert avec mon excellent collègue Mac Wickfield, qui, comme à chaque samedi, est avec nous en studio et qui va nous présenter un autre chef-d'œuvre musical. Mais Mac, permettez-moi de vous saluer d'abord.
Bonjour Raymond, merci.
Est-ce que les pastilles de samedi dernier ont fait leur effet? Est-ce que ça va un petit peu mieux là?
Ça va un peu mieux,
un peu mieux. Les pastilles du sabbat, hein, ça a un effet tout particulier.
tout à fait ça.
Mac, qu'est-ce que vous nous offrez aujourd'hui?
Aujourd'hui Raymond, c'est vraiment le chef-d'œuvre de la réforme que nous allons écouter et nous allons étudier un peu ensemble. Un chant de Martin Luther lui-même, « A mighty fortress is our God ». Et d'abord, nous allons écouter un quatuor du nom de Haven, qui va nous chanter a cappella cette fois, le chant « A mighty fortress is our God ».
A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper, amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe does seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate, on earth is not his equal. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. Dost ask who that may be? Christ Jesus, it is he, Lord Sabaoth his name, from age to age the same, and he must win the battle. And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed his truth to triumph through us. The prince of darkness grim, we tremble not for him. His rage we can endure, for lo, his doom is sure. One little word shall fail him, that word above all earthly powers. No thanks to them abideth. The Spirit and the gifts are ours, through him who with us sideth. Let goods and kindred go, this mortal life also, the body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever.
Sur un air un peu martial, comme vous avez écouté, nous avons écouté « A mighty fortress is our God ». Permettez-moi de vous donner une traduction. C'est un chant qui a 4 strophes et ça a l'air un peu long, mais le message vaut la peine d'être écouté. Notre Dieu est une forteresse puissante, un rempart qui ne manque jamais. Notre aide, lui, qui l'emporte contre le déluge des maux mortels. car notre ennemi ancien cherche toujours à nous faire du mal. Sa puissance est grande, ses ruses nombreuses, et armé d'une haine cruelle, sur terre il n'a pas d'égal. Si nous mettions notre confiance en nos propres forces, nos efforts ne sauraient que faire échec. Si la bonne personne n'était pas de notre côté, l'homme choisi par Dieu même, demandes-tu qui c'est? Il s'agit de Jésus-Christ, Seigneur des armées, d'âge en âge, le même, et il doit remporter la bataille. Et quoique ce monde rempli de démons menace de nous détruire, nous ne craindrons point car Dieu a voulu que sa vérité triomphe à travers nous. Le sombre prince des ténèbres, nous ne tremblons pas devant lui. Nous pouvons supporter sa rage, car sa condamnation est certaine. Il suffit d'un petit mot de la parole pour le vaincre. Cette parole, au-dessus de toutes les puissances terrestres, perdure malgré elle. L'esprit et ses dons nous appartiennent, à cause de celui qui est de notre côté. Que nos biens, même nos bien-aimés, disparaissent, et même cette vie mortelle, ils peuvent tuer le corps. Mais la vérité de Dieu demeure. Son royaume est éternel.
Que c'est bien.
Majestueux.
Effectivement, majestueux et glorieux. Alors, c'est un cantique que nous chantons en français sous le titre « C'est un rempart que notre Dieu, n'est-ce pas? »
Le message n'est pas très différent en français. Je voulais faire une traduction quand même, mais on aurait pu lire la strophe en français et pas être très loin du message.
Par contre, c'était effectivement plus littéral. On est très plus près beaucoup plus près du message initial, en effet, oui.
Oui. Martin Luther, l'auteur, mais on connaît pas mal de choses à son sujet. Il est né le 10 novembre 1483 et baptisé le lendemain à la fête de Saint-Martin de Tours.
On présume donc que les parents étaient pédobaptistes, hein?
On dirait, peut-être. Son père Hans planifiait pour ce fils aîné une carrière en droit. Et élevé dans trois écoles différentes, éducativement, il suivait ce qu'on appelait dans le temps le trivium, la grammaire, la rhétorique et la logique.
Oui.
Une éducation qui, selon Luther, constituait son expérience du purgatoire.
Oh!
Il a parlé même de l'enfer, il n'aimait pas trop ça. Mais ça l'a préparé merveilleusement pour sa carrière après, non seulement dans le droit, qu'il n'a pas suivi enfin, mais dans l'autre carrière qu'on connaît bien de réformateur. À l'âge de 19 ans, il a débuté ses études à l'université d'Erfurt, et 4 ans plus tard, il a reçu sa maîtrise. Mais il était frustré, comme j'ai dit, par ses études en droit, il a bientôt quitté cette discipline et s'est tourné vers la théologie et la philosophie. Il a appris à travers ses mentors à se méfier de même les penseurs les plus grands et à tout éprouver par sa propre expérience. Déçu enfin par la philosophie, car il raisonnait que la raison ne pouvait conduire un homme à Dieu, il se dévouait à la théologie. On pourrait questionner les hommes et les institutions, mais pas Dieu. Seule la révélation divine pourrait informer sur Dieu, et les saintes écritures devenaient pour Luther de plus en plus importantes. Le 2 juillet 1505, à son retour vers l'université à cheval pendant un orage, un éclair a frappé tout près de lui et il a crié à Sainte-Anne, « Au secours, Sainte-Anne, je deviendrai moine !» Un vœu qu'il a gardé. 2 semaines plus tard, il est entré dans une fraternité, un couvent augustinien, où il s'est donné à la vie monastique. Le jeûne de longues heures de prière, les pèlerinages et des confessions fréquentes. On l'entendait dire plus tard, « Si jamais quelqu'un aurait pu gagner le ciel en tant que moine, alors moi j'aurais certainement réussi. » Mais la période était pleine de désespoir spirituel pour Martin et il a écrit, « J'ai perdu de vue Christ le Sauveur, le Consolateur. Il est devenu pour moi le geôlier, le bourreau de ma pauvre âme. » Il est devenu enfin prêtre et a commencé à enseigner la théologie à l'université de Wittenberg, où il a passé sa carrière et ajouté d'autres baccalauréats et d'autres distinctions à son compte. Entrer dans tous les détails serait trop long pour cette émission, mais il suffit de dire qu'à la longue, Martin a commencé à critiquer ce qu'il considérait être les abus dans l'éthique de son Église. La théologie de cette dernière déclarait que la foi seule ne peut justifier un homme devant Dieu. La justification dépend plutôt d'une foi qui s'active en bonnes œuvres, en œuvres de charité. Et les bénéfices des bonnes œuvres pourraient se procurer par des dons d'argent à l'Église. Ceci prenait la forme de ce qu'on appelait dans le temps des indulgences. est un peu la grâce achetée, si vous voulez. Luther croyait, et l'a fait savoir en écrivant ses 95 thèses, que le salut ou la rédemption est un don de Dieu, entièrement donné par grâce et accessible uniquement par la foi en Jésus. Voilà pour, un peu pour l'histoire de Martin Luther. Il a écrit donc ce cantique basé sur le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Une grande source d'inspiration, un cri de bataille vraiment pour le peuple de Dieu au temps de Luther et pas moins, je dirais, de nos jours.
Voilà. Et vous savez, s'il a crié à Sainte-Anne lorsqu'il a été frappé par un éclair, au tout proche, là, hein, ce n'est pas à Sainte-Anne qu'il a crié pour son salut. Lorsqu'il a reçu la lumière, il s'est rendu compte que Sainte-Anne, aussi gentille puisse-t-elle être, ne pouvait rien faire pour lui, hein, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et que c'est le Christ Jésus. Un petit détail au passage, nous avons traduit, enfin Mac a traduit bien sûr le cantique de l'anglais au français, mais c'est un cantique qui avait été initialement écrit en allemand certainement, n'est-ce pas?
En allemand,
voilà.
Oui, effectivement.
Alors, on le traduit de l'anglais au français, mais le message est effectivement le même. Bien, j'aimerais dans un premier temps, Mac, vous avez quelque chose à ajouter là, ou si c'est à mon tour?
Correct.
Le machinisme fait de grands signes là.
À vous, Raymond.
Et je reviens à vous ensuite, hein, je vous laisserai pas tomber, je vous promets là. Permettez-moi de lire le psaume 46, puisqu'il est tiré de ce psaume-là, au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Chef-d'œuvre, comme vous le mentionniez si bien, Mac, applicable, n'est-ce pas, de toute époque. La parole de Dieu, hein, elle est para-historique, hein, elle transcende l'histoire et de beaucoup. La première strophe, donc, Dieu nous est décrit comme un rempart, comme une forteresse. Est-ce que ce sont les mots que vous avez employés, Mac, dans votre traduction? Oui.
Puissante, un rempart qui ne manque jamais.
Voilà. Larousse, le dictionnaire Larousse traduit le rempart comme une muraille solide, résistante, hein. Il décrit la forteresse, bien sûr, c'est un lieu fortifié, c'est un lieu organisé pour la défense d'une ville, une forteresse, ou la défense d'une région. C'est ce qui protège, défend quelque chose ou quelqu'un, c'est ce qui résiste à l'action ou au courant extérieur. Et j'aimerais vous proposer une très belle illustration de cela, que nous retrouvons, enfin cette réalité-là, nous la retrouvons dans 1er Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5, où nous lisons, sous la plume pétrinienne donc, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage » qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé à vous dans les cieux. Voyez-vous, Mac? Pourquoi est-ce qu'on est certain que notre héritage ne peut pas se perdre? Parce qu'il nous est réservé dans les cieux. Il n'y a pas un endroit plus sûr, plus sécuritaire que le ciel. Maintenant, il y a un autre problème qui s'appelle l'héritier. L'héritage peut être en pleine sécurité, mais si l'héritier ne parvient pas jusque-là, Il ne lui sert de strictement rien. Il faut donc que l'héritier aussi soit gardé, et c'est ainsi que le verset se poursuit. Donc cet héritage-là, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Que vaudrait un héritage incorruptible et bien gardé si l'héritier ne peut en prendre possession? Il est impératif que les deux soient gardés, et l'héritage et l'héritier. Bon, nous n'avons aucun souci pour l'héritage, il est gardé au ciel, il n'y a pas de lieu plus sûr, plus sécuritaire que cela, mais qu'en est-il de l'héritier? Qu'en est-il de ce temps entre la nouvelle naissance et la glorification? Qu'en est-il de toutes les tentations, les pressions, le stress, les fatigues, les lassitudes, l'érosion du temps, les persécutions, les frustrations, les souffrances, les perplexités, les craintes, et toute la pléthore de pièges qui vont se pointer sur mon sentier? Est-ce que Dieu, qui a envoyé son Fils mourir pour mes péchés, qui l'a ressuscité même en des morts pour ouvrir l'accès à la vie éternelle, qui m'a régénéré, est-ce qu'il va maintenant se retirer pour voir si je vais être en mesure de franchir la distance par moi-même, de me rendre jusqu'à la fin? Si tel était le cas, Mac, hein? Si tel était le cas, béni soit le larron en croix dont nous parlions il n'y a pas si longtemps, qui est mort avant d'avoir eu l'occasion de perdre son salut, n'est-ce pas? La réponse de Pierre est d'une clarté cristalline dans les versets 4 et 5. L'héritage est gardé et l'héritier est gardé. Nous qui sommes gardés, le beau verbe phroreo, qui est tiré d'un contexte militaire, vous l'avez mentionné dans votre traduction tout à l'heure, hein, qui est tiré d'un contexte militaire, qui est utilisé pour éviter, hein, pour être protégé contre une invasion, mais aussi qui prévient une évasion. Alors non seulement sommes-nous protégés contre les dangers extérieurs, mais nous sommes également protégés contre nous-mêmes. Nous sommes gardés. Et ça nous amène à la deuxième strophe, toujours encore dans un contexte militaire.
Si nous mettions notre confiance en nos propres forces, nos efforts ne sauraient que faire échec. Si la bonne personne n'était pas de notre côté, l'homme choisi par Dieu même, demandes-tu, qui c'est? Il s'agit de Jésus-Christ, Seigneur des armées, d'âge en âge, le même. Et il doit remporter la bataille.
Impérativement. S'il fallait que ça repose sur notre propre force, misérable que nous serions, n'est-ce pas? Mais c'est « nous sommes gardés ». Le verbe, il est au passif. Hein? Nous ne sommes pas le sujet du verbe. Dieu est le sujet. Et la troisième strophe maintenant.
Et quoique ce monde rempli de démons menace de nous détruire, nous ne craindrons point, car Dieu a voulu que sa vérité triomphe à travers nous. Le sombre prince des ténèbres, nous ne tremblons pas devant lui. Nous pouvons supporter sa rage, car sa condamnation est certaine. Il suffit d'un petit mot de la parole pour le vaincre.
Conscient de notre position de sécurité, nous ne craignons pas. Nous sommes confiants dans le triomphe de la vérité. C'est intéressant parce que la crainte revient souvent dans la révélation de Dieu. Hein? L'amour parfait bannit la crainte. Et lorsque les anges apparaissent au berger en Luc, là, hein, ne craignez point, voici je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Ne craignez point, leur disent-ils. Pourquoi? Parce qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et un Seigneur, ça règne. C'est un Dieu tout-puissant. Très beau message encore dans cette strophe-là. Et la quatrième maintenant.
Cette parole, au-dessus de toutes les puissances terrestres, perdure malgré elles. L'esprit et ses dons nous appartiennent à cause de celui qui est de notre côté. Que nos biens, même nos bien-aimés, disparaissent, et même cette vie mortelle, ils peuvent tuer le corps, mais la vérité de Dieu demeure. Son royaume est éternel.
Voilà, et la version que nous chantons nous dit « Le royaume nous appartient ». Oui, parce que c'est un royaume éternel, un royaume inébranlable, pour reprendre la terminologie de l'Épître aux Hébreux. On voit donc que le chrétien n'est pas à l'abri des épreuves, hein, contre, et ça va à l'encontre de cette fausse théologie, là, là, cette fausse théologie de la prospérité, qu'un chrétien n'est pas malade, qu'un chrétien prospère tout le temps. Non, il y a des Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, ils s'en sortent à bon compte, hein, sans même qu'il y ait une trace de flamme sur eux, mais il y a aussi des Étienne qui meurent sous les pierres. Et dans un cas comme dans l'autre, Dieu en prend soin. Dieu pourvoit à ce qui est nécessaire pour cette circonstance-là. Alors, on n'est pas à l'abri des épreuves, cependant, rien, strictement rien, ne peut venir altérer notre héritage éternel. Nous appartenons à un royaume inébranlable. Et j'aime bien l'expression de l'Épître aux Hébreux qui nous dit « là où la justice habitera ». C'est le mot kataoikos, hein, comme vous le savez certainement, Mac, qui veut dire habitera éternellement. Non, j'emploie le mot kataoikos parce que c'est en comparaison avec paraoikos, qui veut dire demeure temporaire, et paraoikos, ça a donné le mot paroisse.
Des racines.
Voilà, exactement. Alors, nous sommes présentement dans une demeure temporaire, mais nous nous dirigeons vers une demeure éternelle, un royaume inébranlable. C'est pourquoi nous dit Hébreux 12, 28, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est maintenant tout vôtre, mon cher Mac.
Et de ce nouveau chant, pas ce nouveau chant, mais de ce chant nouveau, nous allons écouter une mise en musique qui présente une face plus moderne de ce classique, cette fois-ci qui vient de la Maranatha Praise Band. A mighty fortress is our God.
Quel bel accent vous aviez, Marc. Je suis toujours impressionné. Et si vous êtes un habitué de l'émission Parole à musique, vous savez qu'avant l'écoute de la dernière pièce musicale, de la dernière version du cantique, donc, que nous avons considéré, nous vous offrons nos remerciements pour votre présence à l'émission. Nous vous saluons chaleureusement. Nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur en ce beau week-end et surtout que vous puissiez être exposé demain à la proclamation, à la prédication d'une parole bénie et d'une bonne communion fraternelle. Merci infiniment à vous également, cher Mac, pour votre précieuse collaboration et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas la rediffusion de Parole en musique qui vous revient cet après-midi à 17h30. Bon week-end à tous.
We're not